Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Merci de votre fidélité au Capi Service, le magazine de la vie au quotidien. Aujourd'hui, nous parlons de l'erreur médicale. Hein, quelle est la procédure à suivre pour porter plainte? Vous savez, certaines personnes sont victimes d'accidents ou d'erreurs médicales. Et d'après plusieurs sources, ces problèmes surviennent généralement après une intervention chirurgicale ou une mauvaise prise en charge du malade dans un centre hospitalier. Alors, lorsqu'il y a erreur médicale, on a les droits de porter plainte. Et comment cela doit se faire? Eh bien, on en parle avec notre invité, Maître Charles Mouchizi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Et bon début de semaine.
Je vous en prie, merci.
Alors, comment la loi définit une erreur médicale?
La loi ne définit pas de manière claire une erreur médicale. En fait, l'erreur n'est même déjà pas un concept à proprement parler juridique. Mais le médecin est astreint à un certain nombre d'obligations qui sont globalement fondées sur l'article 1er de l'ordonnance de 1970 qui met en place les principes déontologiques et éthiques de la profession médicale. Mmh. Alors, cet article met à charge du médecin l'obligation de respecter la vie en toutes circonstances et de ne jamais se dérober à ses obligations de médecin face à une situation qui l'interpelle et qui est de nature justement à mettre en danger, à mettre en péril la santé de tout individu. Mm-hmm. Et donc c'est une obligation de regarder la vie humaine comme élément central de son intervention, de son action au quotidien et en toutes circonstances.
Voilà. Et comment est-ce qu'on peut arriver à déterminer qu'il s'agit d'une erreur et puis à porter plainte? Parce qu'il y a eu des cas comme ça où on a opéré une personne. Après, il y a des comment on appelle ça, les watts qui sont restés dans le ventre, ou bien on n'a pas donné le produit qu'il fallait et puis il y a eu des réactions et la personne décède.
Sur le plan du droit, on ne peut parler que de deux situations possibles. Soit qu'il s'agit d'un fait quelconque qui n'est pas constitutif d'infraction, soit qu'il s'agit d'une infraction. S'il s'agit d'une faute quelconque qui cause préjudice à autrui, mmh. tout individu qui en est victime peut se prévaloir devant le juge civil et obtenir des réparations du fait des préjudices subséquents à cette faute, à cette erreur, si je dois reprendre votre mot. Mmh. Non, mais par contre, si il s'agit d'une infraction, le médecin répondra bel et bien au pénal devant le juge, attrait soit par la victime et qui réclame les dommages intérêt, soit par le ministère public qui aura constaté l'infraction et qui se sera saisi d'office.
Par exemple, vous avez un frère à l'hôpital et le médecin traitant on s'est rendu compte qu'il n'a pas donné le produit qu'il fallait et puis il a entraîné la mort de la personne. Alors qu'est-ce que le membre de famille doit faire à ce moment-là?
La loi dont nous parlons et qui met en place les règles de déontologie et de l'éthique professionnelle pour les médecins oblige le médecin à ne pas faire application des méthodes ni des prescriptions qui ne sont pas encore éprouvées. Il doit donc faire application des prescriptions qui sont éprouvées et qui sont justement acceptées par l'ensemble du corps. Mmh. Il ne doit pas faire des essais sur un corps médical, sur le corps de malade sur base de ce qu'il pense être efficace. Il doit interroger la pratique, il doit interroger la science, il doit même amener le diagnostic en discussion au sein de l'équipe professionnelle qui discute au sein de la formation médicale afin d'établir avec précision le diagnostic et le médicament qu'il faut pour faire face aux cas qui sont relevés.
Et s'il ne l'avait pas fait et que la personne décède à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire?
Bon, sans préjudice des poursuites professionnelles au sein de la profession même, au sein du corps médical.
Faut-il aller saisir l'ordre des médecins et comment ça doit se passer?
Les deux actions sont tout à fait autonomes parce que, comme je l'ai dit tout de suite, une faute médicale peut être constitutive d'infraction. Et lorsque vous faites par exemple allusion à un corps étranger laissé dans le corps d'un malade, un bistouri par exemple oublié dans le corps d'un malade et qui vient à créer un homicide, la mort du malade, le médecin ça peut être poursuivi pour homicide. Maintenant, il faut établir est-ce que c'était volontaire ou pas volontaire. Et donc, de toute évidence, il sera poursuivi pour homicide parce que du fait de son inaction, de son abstention ou de sa mauvaise action, il s'en est suivi la mort d'un individu.
Voilà. Et comment procéder? Faut-il on voit directement son avocat qui peut commencer
l'action en justice. En principe, toute victime doit se pourvoir directement devant l'autorité judiciaire. Mmh. Il peut s'agir de la police judiciaire, comme devant le parquet, par une plainte, comme directement par une citation directe devant le juge qui va statuer. Le seul élément qui peut poser peut-être problème ici, parce qu'il s'agit d'un domaine assez spécifique, c'est le régime d'établissement de la preuve de la faute médicale. Mais il est évident que lorsqu'un bistouri a été oublié dans le ventre d'un malade, la preuve est évidente que justement ça a été constitué une omission, une faute, un oubli ou une action positive ou négative de la part du médecin et qui a causé préjudice.
Voilà. Mais certains disent que parfois, souvent, les médecins s'y couvrent lorsqu'un collègue a commis une erreur et le médecin qui arrive pour traiter, bon, il va tout faire pour effacer les traces et puis on va essayer de peut-être de faire disparaître les traces.
Écoutez, c'est un esprit de corps qui existe dans tous les corps professionnels organisés. Et on dit chez les magistrats que le loup ne se mange pas entre eux. Ça veut dire que lorsque vous prenez à partie un magistrat, vous avez peu de chances de gagner lorsque ceux qui statuent sur les cas ont été plus ou moins proches du magistrat qui est pris à partie. Mmh. Et dans le corps professionnel des avocats, on peut dire aussi cela dans une certaine mesure. Ce n'est pas très très différent pour ce qui est des médecins. Mais ça, c'est quelque chose de négatif qu'il faut élaguer justement des corps professionnels. Lorsque on les appelle corps professionnels, ils doivent être justement professionnels. Et heureusement justement que le législateur a prévu que ces corps soient aussi poursuivables, notamment pour ce qui est de l'ordre des médecins, qui a la personnalité juridique et qui peut être poursuivi comme civilement responsable au cas où il couvrait une faute aussi évidente établie dans le chef d'un médecin.
Merci à tous les auditeurs qui nous ont écrit sur la page Facebook du magazine Okapi Service. Pascal Bameba de Boutembo nous dit ceci. Pour moi, on peut porter plainte, mais voyant le nombre de personnes soignant, voyant le nombre de patients à l'hôpital, cela est impossible. En plus, quelqu'un qui est mort à l'hôpital, le médecin ne peut jamais vous expliquer que c'était de sa faute, hein, que la personne est décédée. Alors, comment porter plainte contre ce qu'on ignore? Ça, c'est la question de Pascal Bameba de Boutembo.
Oui, comme j'ai dit, le régime de la preuve peut être un peu plus compliqué pour le commun mortel parce qu'il s'agit ici d'un domaine plus ou moins savant. Mmh. Un domaine pour lequel il faut établir la faute en faisant une contre-expertise avec...
À moins qu'un autre médecin vienne déclarer
qu'il s'agissait d'une... Et ça va de soi, c'est une obligation déontologique du seul moment où il s'agit de la vie humaine qui est en danger et qui est protégée par l'article 1er de l'ordonnance de 1970 qui établit les règles déontologique des médecins. Mmh. Et donc, la question de la preuve peut être un peu difficile, mais de toute évidence, lorsque on regarde les prescriptions, par exemple, faites par un médecin à l'endroit d'un malade qui souffre de diabète, alors qu'il ne devait justement pas faire ces prescriptions, la faute peut être clairement établie.
Parce qu'il fait une ordonnance.
Exact.
Et l'ordonnance est toujours signée.
Et c'est même une obligation déontologique, en plus, qui est établie par la même ordonnance, qui dit... ce qui doit figurer dans le cachet, dans l'écriture, dans la signature de tout médecin, notamment son numéro d'ordre, son nom, etc., la formation médicale pour laquelle il travaille. Et donc, il est facile d'établir qui a fait ces prescriptions et qui a administré ces prescriptions au regard de l'état de santé du malade et du diagnostic qui devait être fait préalablement.
Et là, le médecin sera poursuivi pour un homicide involontaire, c'est ça?
Et si il s'ensuit mort du patient, oui, il peut être poursuivi pour homicide. Maintenant, l'homicide peut être volontaire ou pas volontaire, mais de toute évidence, c'est un homicide pour lequel il devra être poursuivi.
Odax Rugenda Banga Mulikuza nous a écrit depuis Bukavu, au sud Kivu. Il dit ceci: les cas de fautes médicales ont toujours été nombreux, mais au Congo, le chef n'a jamais eu tort. Nous avons toujours assisté à des personnes soignantes qui, après avoir injecté un malade, c'est un gonflement qui s'ensuit et personne ne revendique. D'autres, après l'opération, c'est la mort, mais les soignants vont donner un motif que la personne était déjà à terme et personne d'autre ne peut prélever des données contraires. Voilà, c'est ce que nous dit Odax depuis Bukavu.
Ce que les gens oublient généralement, c'est que sur les 8 titres que porte l'ordonnance de 1970, il y a un titre entièrement réservé au rapport entre le malade et le médecin, et qui consacre les droits du malade. Et le malade est en droit de refuser à ce que tel ou tel autre médecin touche son corps ou lui administre des soins. Et donc, il peut refuser et dire je ne veux pas de ce médecin pour des raisons qui lui sont propres, il n'a pas besoin de les justifier. Et donc, lorsque la personne, le patient est déjà conscient de ses droits, il est observateur, il est un peu plus exigeant. C'est vrai qu'il ne va pas se substituer aux soignants, mais il peut contrôler raisonnablement l'action du soignant, se sachant souffrant par exemple de diabète depuis autant de temps et sachant qu'il a toujours subi tel traitement ou tel autre, il va être regardant sur le traitement qui va lui être administré. La question de la responsabilité doit être ressentie par le malade lui-même comme une faute commise à son endroit par le médecin, soit dans le diagnostic, l'établissement d'un faux diagnostic, soit par des prescriptions qui ne cadrent pas avec ce dont il souffre, soit avec l'administration directe des produits dans son corps. Et donc, ce qui peut être peut-être difficile, c'est d'établir la faute médicale lors de la prescription, mais lors de l'administration et lors du diagnostic, ça peut être aussi évident.
Il y a eu même certains cas dans une formation médicale ici à Kinshasa où la famille vient directement avec une personne malade et on va appeler ceux qui sont là pour venir à la rescousse, mais ils traînent le pas. Et puis après, on amène la personne malade, on vous dit non, avant qu'on touche, il faut d'abord remplir la fiche, donner l'argent, et puis la personne décède.
La loi, l'ordonnance dont nous sommes en train de parler, interdit toute activité, toute appréhension à caractère commercial au médecin. Il ne peut pas faire de la publicité, ça la réclame. Il ne peut pas exiger de l'argent avant d'administrer les soins. Et lorsque il est très exigeant avant de toucher le malade, il peut être poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Il peut aussi être poursuivi pour homicide involontaire s'il s'en suit mort juste avant qu'il ne touche le malade. Et donc, les abstentions coupables qui sont prévues et punies par l'article 66 ter du code pénal livre 2 sont applicables mutandis mutatis aux médecins, notamment en vertu des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance dont nous sommes en train de parler ici. Et donc ces abstentions peuvent amener justement le médecin à répondre de sa responsabilité pénale devant le juge pour avoir hésité.
Parce qu'il s'agit là aussi d'une erreur médicale.
Sur le plan déontologique, on peut considérer que d'abord que c'est une faute professionnelle, mais sur le plan juridique, c'est absolument une erreur, peut-être pas médicale, mais en tout cas une faute sur le plan pénal.
Bien, nous avons deux auditeurs en ligne. Maître Ndarabou nous appelle de Kindu et Serge Kalobia est aussi dans la même ville. Vous voulez participer à cette émission? Appelez-nous au 081-890-63-94.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioOkapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioOkapi.net, la radio en différé à votre service.
Bien, nous parlons aujourd'hui de l'erreur médicale. Quelle est la procédure à suivre pour porter plainte? Maître Ndarabou, vous êtes à Kindu, au Maniema, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour l'invité, confrère, et bonjour à tous les invités de Radio Capi.
On vous écoute.
En fait, je voudrais juste donner ma contribution par rapport au sujet qui est abordé, un sujet très important. Je pense que le problème, à mon avis, réside au niveau de l'ignorance. Nous avons une population ignorante à une grande majorité. Vous savez, comme on a toujours dit, moi j'ai toujours considéré que le problème du Congo demeure d'abord, comme beaucoup de pays sous-développés,
l'ignorance,
le problème du niveau. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui ne connaissent pas leurs droits, comme c'est le cas, même si on dit qu'ils ne sont censés ignorer la loi, mais c'est un problème qui a toujours fait défaut. Quand on part à l'hôpital, on sait souvent ce problème, ça se pose tous les jours. Il y a des gens qui sont victimes de cette situation, mais comme on l'a évoqué dans votre émission il y a quelques instants là, il y a le problème de la couverture. Le corps, on protège les personnes, le médecin qui ont commis l'erreur, et beaucoup de gens ne savent pas comment réclamer leurs droits, ils ne savent pas comment dire que... Ils savent qu'ils sont venus avec la personne malade à l'hôpital, mais une fois la personne meurt dans l'hôpital, on dit que non, tu vois, c'est Dieu qui a voulu que la personne meure. Nous, on a pu rien faire. Et on n'a même pas le temps de regarder si exactement il y a eu erreur, à quel niveau, pour que la personne arrive à décéder. Et là, le problème pourrait trouver des solutions si seulement le corps est en mesure de dénoncer la personne qui a été à la base de ça. Ça, c'est le premier aspect. Mais aussi, le problème, c'est au niveau des médecins. Vous l'avez évoqué tout à l'heure là, que il y a beaucoup de médecins qui négligent les malades aujourd'hui. Quand quelqu'un arrive à l'hôpital, s'il n'a pas de moyens, on ne s'intéresse pas à lui, on ne le traite pas. Et quand la personne arrive à succomber de ses douleurs, alors on ne sait plus attribuer la responsabilité à quelqu'un. Mais là, la question est complexe. Parce qu'il ne faut pas seulement qu'on s'en tienne à qu'on s'en remette au médecin. Ils ne sont toujours pas responsables de ce qui arrive. Et aussi, ils doivent travailler. Ils font leur travail, mais ils n'ont pas souvent beaucoup de moyens. Parfois, les médecins sont mal payés. Ils n'ont pas de moyens pour faire leur travail. Et dans ce cas, le problème retombe au niveau de l'État. Il y a des gens qui sont pauvres, les personnes qui ne peuvent pas aller à l'hôpital parce que il y a du chômage dans le pays. Il y a des gens qui n'ont rien de quoi se faire soigner. Et cette misère ne peut pas retomber sur le médecin aussi, qui a besoin de se nourrir, de nourrir sa famille. Donc vous comprenez que le problème doit se régler à tous les niveaux, à partir de ça, ça doit commencer par l'État. Parce que c'est un problème très complexe et voilà. De toute façon, je ne cautionne pas cette attitude de médecin. Ils sont tenus à leur déontologie, ils doivent faire tout ce qu'ils doivent faire pour sauver la vie des gens. Mais aussi, le problème doit être traité de façon globale, en commençant par l'État qui doit bien traiter ces médecins qui sont au service de la population, mais aussi donner de l'emploi et donner le moyen de vivre, que les paniers des ménagers soient à mesure de résoudre des problèmes sanitaires aussi.
Merci Maître Ndarabou pour cette contribution. Serge Kalobia, vous êtes également à Kindu, bonjour, et quelle est votre question par rapport à ce thème?
Oui, bonjour, je suis Daniel Kastama, bonjour Kalobia. Et je félicite les...
Oui, parlez un peu plus fort.
Oui, je félicite l'intervenant de tout à l'heure qui vient d'intervenir à partir de ce qui est au Mayema. Mais moi, je voudrais un peu dire à notre invité que cette erreur médicale chez les médecins, vous allez le retrouver beaucoup plus dans des hôpitaux de l'État, mais pas dans des hôpitaux privés. Parce que si vous regardez dans des hôpitaux de l'État, c'est là où il y a beaucoup de médecins et qui ne s'occupent pas des malades. Mais si vous entrez votre malade dans les hôpitaux privés, vous allez voir avec beaucoup de courage, vous allez trouver les médecins qui posent tout de suite les premiers actes qui sauvent les malades. Maintenant, moi, je voulais être un peu à l'écart de notre sujet pour poser la question à notre invité, parce qu'il y a aussi mort d'hommes à travers les chambres de prière et les traduits praticiens. Parce que là, on amène aussi des malades avec qui on l'a soigné à la
carte. Bon, Serge, d'accord. Alors, je crois que là, on va aborder, c'est là, dans une prochaine émission, on va parler des chambres de prière et les traduits praticiens. Mais l'invité pourra quand même dire quelques...
Je disais cela pourquoi, parce que là aussi, il y a mort d'homme, parce que je voudrais aussi dire à l'invité, il y a aussi des possibilités à poser, parce que là, c'est la question du ville. C'est Dieu qui a dit, il ne faut pas les faire. C'est là-bas, la guérison sera ici, donc c'est ça un peu la question.
D'accord, merci. Pierre Massoukou, vous êtes à Calimi, bonjour. Quelle est votre question par rapport à l'erreur médicale?
Ah, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre question?
Ma préoccupation est celle de savoir, j'aimerais demander à l'invité Nous avons un patient à la maison et nous appelons un médecin qui nous prescrire une ordonnance médicale. Et après avoir fait cette prescription, nous allons dans une pharmacie avec cette ordonnance médicale que lui nous a prescrit. Le pharmacien nous donne le médicament pour venir donner au malade. Et arrivé à la maison, après 2 ou 3 jours, le malade vient de mourir. Donc, il vient de perdre la vie. Alors, que parmi entre le médecin, celui qui nous a prescrit l'ordonnance médicale, et le pharmacien qui nous a vendu les médicaments, nous pouvons traduire qui en justice entre les deux personnes.
D'accord, merci. Maître, monsieur Charles, vous avez la parole.
D'abord, je remercie le confrère qui est intervenu tout de suite et je le remercie vivement pour cet ajout, ce complément qui est très, très fondamental. Ce que je veux plutôt ajouter à ce qu'il a dit, parce que, en fait, l'ignorance, c'est vrai, c'est ça ce qui gangrène la plupart de nos élans de développement. Et lorsque le malade connaît ses droits, en fait, il constitue une sorte de contre-pouvoir contre les excès, les éventuels excès d'un médecin. Mm-hmm. Alors, il a dit que la plupart de ces cas se passent dans les formations médicales de l'État.
Ça, c'est Serge qui l'a dit.
Oui. Et donc, les gens doivent apprendre aussi que, au-delà de la responsabilité personnelle du médecin qui est attrait pour faute personnelle ou pour infraction, le civilement responsable peut être l'État à travers la formation médicale qui emploie le médecin. Et donc, chaque fois que le médecin sera poursuivi du chef d'une infraction du fait de sa faute médicale, l'État sera toujours considéré comme le civilement responsable pour le compte, en tant que commettant pour le compte de son préposé qui est le médecin qui travaille dans ces formations.
Et pourtant, certains disent que c'est plutôt dans les centres privés et les dispensaires dans les quartiers où il s'est commis beaucoup d'erreurs.
Oui, c'est des parts d'autres en fait. Lorsque vous allez à Mamaye, moi ici, vous n'êtes pas reçu si vous n'avez pas encore payé de l'argent et ça, c'est un manque de délicatesse de la part d'un médecin. Le médecin ne peut pas exiger de l'argent avant de recevoir un médecin et un malade plutôt.
Bon, généralement, c'est l'infirmier peut-être qui reçoit les malades et qui établit les fiches qui exigent cela.
Heureusement que de plus en plus, tous ces corps professionnels s'organisent et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir encore
l'ordre des infirmiers.
Mmh. Et donc qui doit organiser cette question de déontologie aussi. Elle n'est pas encore très très au point aujourd'hui, mais on espère que dans les quelques jours qui suivent, les choses pourront s'améliorer parce que les infirmiers seront astreints aussi à un certain nombre de règles de déontologie et d'éthique qu'ils devront observer lorsqu'ils reçoivent le malade ou lorsqu'ils poursuivent des soins parce que c'est généralement les médecins, les infirmiers qui administrent les soins aux patients.
Pierre Massoukou dit ils avaient un patient à la maison, le médecin a prescrit un produit, ils sont allés acheter le produit à la pharmacie et puis on administre le produit à la personne, quelques jours après elle décède. Alors qui est poursuivable? Est-ce qu'il s'agit du médecin ou du pharmacien?
Prioritairement le médecin parce que le médecin est averti qu'il ne peut recevoir les malades que dans le cadre d'une formation médicale et qu'il ne peut faire aucune prescription sans à la base avoir établi un diagnostic clair. Et donc si la population par ignorance croit qu'elle peut appeler le médecin à la maison et dire donnez-lui quelque chose parce qu'il a besoin de... Non, le médecin doit nécessairement faire un diagnostic. Lorsque le cas est grave et qu'il ne peut pas être transporté dans une formation médicale, en tout état de cause, il doit faire un diagnostic, même le plus élémentaire, pour essayer de sauver la situation. Mais là, on évaluera justement la situation de manière concrète. Le médecin ne peut pas venir toucher le malade et dire il a de la fièvre, je lui prescris directement tel médicament. Mmh. Il doit être capable d'assumer le diagnostic qu'il fait et il doit signer son ordonnance. Signe qu'il porte toute la responsabilité de ce qui va arriver éventuellement de bien ou de mal sur le malade.
Bien, Pichu Chimanga nous appelle de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, j'ai 3 petites questions à poser à l'invité. La première est celle-ci. La pratique d'euthanasie peut être classée parmi les infractions à la République démocratique du Congo. La deuxième est de savoir, des fois les médecins nous envoient acheter les produits dans l'ordonnance, ils établissent l'ordonnance tout en mettant les noms scientifique des médicaments et de mettre les noms commerciaux. Et des fois, il arrive comme ça, on fait des tours, on ne retrouve pas les produits qu'ils cherchent réellement. Et des fois, quand on retrouve, lui-même déclare que non, c'est ça les produits qu'on cherche. Et maintenant, dans ce cas-là, si vous arrivez à perdre votre patient, et qui peut être traduit en justice, c'est le médecin ou bien c'est normal, ce n'est pas une erreur médicale. Troisième est celle-ci. Parmi les attributions reconnues au magistrat, le magistrat a le pouvoir d'arrêter dès qu'il constate l'infraction. Mais il y a un cas qu'on a connu en 2015 ici à Kinshasa, où il s'agissait d'un hôpital reconnu au standard international. Et cet hôpital est mieux reconnu dans le domaine politique. Dans cet hôpital, ils avaient connu donc la confusion. Au lieu d'injecter l'anesthésie pour quelqu'un qui devait connaître, subir une intervention chirurgicale, on l'a injecté plutôt les formoles, alors que la personne, la dame l'était vivante. Et maintenant, il y a une mort. Et maintenant, faut-il toujours patienter à ce que les maris de cette femme traduisent en justice ou bien les magistrats devaient arrêter parce qu'il y avait déjà les infractions constatées. Merci beaucoup.
Bien, merci Gabriel Bétou. Vous êtes à Kalima. Bonjour, quelle est votre question?
Bonjour, monsieur, je dis Daniel Kachama. J'ai une question maintenant, cette question-là à dévoiler. J'ai connu un cas ici de mon frère, ici chez nous à Kalima, dans notre hôpital général de référence, pour le cas de césarienne. On avait opéré sa femme très bien, bonnement. L'enfant sort maintenant par la mégarde du médecin. Au lieu de couper toutes les fils, il a coupé et il a laissé une petite file dans la ventre. Maintenant, la ventre commence à gonfler. De la dernière, commence à gonfler. Comment la piste de solution pour réparer cette blessure qui se trouve dans le ventre? Dans de tels cas, il faut porter plainte au médecin. Et si on porte plainte, on engendre un conflit entre les malades ainsi que les médecins. Comment on peut les aider? Les vités peuvent nous aider là.
D'accord, maître Charles, vous avez la parole.
D'abord, la toute première question, est-ce que l'euthanasie est une infraction au droit pénal congolais? Bien sûr. L'article 19 de l'ordonnance numéro 158 du 30 avril 1970, qui établit les règles de déontologie des médecins, dit clairement que la pratique de l'euthanasie est interdite en République démocratique du Congo. Donc, là, point besoin de discuter. Toute euthanasie est une infraction au droit pénal congolais.
Bah, d'accord. Et le médecin qui établit une ordonnance avec les noms scientifiques du produit et la famille, ils vont faire des tours et puis ils trouvent pas les produits. Peut-être qu'ils peuvent revenir. C'est trop tard et la personne décède. Alors, est-ce qu'il est poursuivable à ce moment-là?
Non, jusque-là, à mon avis, la responsabilité du médecin n'est pas établie, sauf si jamais de l'examen des prescriptions, on trouve justement qu'il a prescrit, il y a des médicaments qui ne sont pas encore éprouvés, comme dit l'ordonnance de 1970. S'il fait une prescription qui est fantaisiste, ou s'il fait une prescription qui est entaché d'une intention de nuire, sachant que ce médicament-là ne peut pas être trouvé sur le marché congolais ou sur le marché local, alors qu'il y a des alternatives auxquelles il aurait pu recourir. Là, la responsabilité du médecin peut être établie, mais ce n'est qu'une responsabilité à prouver, encore une fois.
L'établissement de preuves, c'est là peut-être qui pose problème.
Le régime de preuves peut être assez coriace pour ce qui est des fautes médicales. Et là, il faudra plutôt recourir directement à une contre-expertise.
Il y a un auditeur qui nous a dit le patient victime de l'acte thérapeutique peut donc consulter un médecin légiste en vue d'une réparation des préjudices causés par le personnel soignant.
Généralement, les médecins légistes sont appelés à titre probatoire dans le cadre d'une procédure déjà ouverte ou sont consultés sur des questions de droit en lien avec la médecine. Et donc, du coup, il sera difficile tout de suite d'aller consulter un médecin légiste lorsque vous-même, vous ne pouvez pas porter votre plainte devant la justice pour faire établir préalablement cette faute, la faute pour laquelle, justement, le médecin légiste devra être appelé pour... À titre d'expertise à donner au tribunal.
Mais maintenant, comment on va faire pour établir les preuves?
La question de la preuve peut être facile, généralement, lorsque il y a des conséquences claires, visibles, dans les, à la suite d'un acte médical. Et ce qu'a dit l'auditeur de tout de suite à Kalima, du fait d'un mauvais traitement, ou en tout cas d'un certain traitement, le malade a commencé à développer une bédonnance de ventre. Mmh. Et donc, ça peut être considéré comme les suites les plus raisonnables d'un acte médical, sur base desquelles, justement, une plainte peut être déposée contre le médecin, quitte à établir s'il l'a fait de manière volontaire ou pas. Quoi qu'il en soit, il est visible qu'il y a un préjudice qui constitue les suites, qui participent des suites les plus ordinaires d'un acte médical.
Bien, et il y a un auditeur qui est Pichou qui dit dans un hôpital ici, on a au lieu de donner l'anesthésie à une dame, on l'a piqué, administré le formol et mort s'en est suivi. Alors il dit pourquoi le magistrat ne s'est pas saisi de ces cas directement? Parce qu'il s'agissait là d'une fraude grave.
Dans des cas comme ça, le magistrat, la justice peut juste faire ce qu'on appelle une réquisition d'information, réunir tous les éléments qui peuvent aider à la justice à établir s'il y a eu une faute ou pas. Mais de toute évidence, lorsque un corps a reçu du formol, il ne peut que le garder en interne, donc cette expertise sera vite établie. Et donc, pour le moment, je ne peux pas dire s'il s'agissait véritablement du formol ou pas, parce que cela n'a pas été établi par une preuve contraire.
Bien, que faire, quelle est la procédure à suivre en cas d'une erreur médicale? Maître Charles Mouchizi, avocat au barreau de Kinshasa Matete et l'invité d'Okapi Service, les questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94.
Le débat politique, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiookapi.net.
Erreur médicale, quelle est la procédure à suivre pour porter plainte? Roli Konga, vous nous appelez de Guémena. Bonjour et quelle est votre question?
Oui, bonjour monsieur le journaliste et bonjour aussi à notre invité qui est sur le plateau. Et c'est Roli Konga depuis la ville de Guémena.
Quelle est la question?
J'ai au moins des petites préoccupations. La première est la suivante. Voilà, quand un médecin ne parvient pas à opérer une personne, et après cette opération-là, la dite personne meurt. Est-ce que c'est une erreur professionnelle ou c'est les manques de maturité professionnelle? Et la deuxième question, qu'est-ce que les butés peuvent nous dire combien de médecins sont déjà arrêtés dans la République démocratique du Congo pour le manque de professionnalisme ou pour l'erreur professionnelle dans ces métiers-là? Merci.
Maître Charles.
On ne peut pas, en principe, être poursuivi pour ce dont on n'est pas capable de faire. Je voudrais bien m'enquérir de la situation concrète et peut-être réaliser qu'on a amené une personne qui souffre d'un enflement oculaire dans un petit dispensaire de la cité. C'est évident que la prise en charge sera difficile.
Mais on a déjà eu des cas où une jeune fille vient se faire avorter, elle arrive dans un dispensaire, on commence à faire le curettage et puis après elle commence à saigner abondamment, ça marche plus et puis elle décède. Alors le médecin et tous les infirmiers qui étaient là, allez, ils prennent la poudre d'escampette. Alors la famille, qu'est-ce qu'elle peut faire dans ce cas?
La famille doit d'abord savoir que tout avortement criminel est interdit en République démocratique du Congo et que donc de ce fait...
Mais la famille d'ailleurs n'était même pas au courant parce qu'elle l'avait en cachette. Hein.
Oui, en tout cas, de toute évidence, si un infirmier, un médecin il s'engage dans un avortement qui n'est pas curatif, qui n'est pas protecteur d'une vie, soit la vie de l'enfant, soit la vie de la mère, il commet une infraction. Et ça, ce sont les articles 50 quelques de la, 56 et suivant, je crois, du Code pénal livre 2, qui prévoit et punit l'avortement. Et lorsque cet avortement a provoqué la mort, évidemment, le médecin ou l'infirmier sera poursuivi et condamné à la peine capitale.
Et, à la peine capitale.
À la mort, justement. Parce que c'est un homicide qui a été fait sur base de l'avortement. Et donc, tout homicide est puni de mort en République démocratique du Congo. Et donc, pour revenir à la question de notre auditeur de tout de suite, le médecin a une obligation de diligence de référer tout cas qu'il ne peut pas traiter à une formation médicale qui peut valablement prendre en charge le cas qui lui est déféré. Et donc, n'ayant pas fait, c'est aussi une faute déontologique. Et si, effectivement, il y a eu mort entre-temps, le médecin peut encore une fois être poursuivi pour homicide involontaire. Il n'a pas voulu tuer, mais le fait de s'être abstenu et de n'avoir pas référé ce cas...
Soit d'avoir négligé, par négligence...
C'est effectivement sur cette base qu'il peut être poursuivi, parce que négliger de référer un cas d'urgence, un cas sur lequel on n'a pas les compétences avérées, à une formation qui peut prendre justement en charge ces cas, et relève d'une faute. Et lorsque ces cas engendrent mort d'homme, on peut poursuivre le premier médecin ou le premier infirmier qui a reçu le malade pour homicide. Maintenant, quitte à dire que ça a été un homicide volontaire ou involontaire, ça dépend maintenant de l'appréciation du juge.
Alors, Oli se pose la question de savoir combien de médecins ont été déjà arrêtés à RDC pour erreur médicale.
Je ne peux pas répondre avec exactitude à cette question parce que nous n'avons pas fait de statistiques à ce point. Mais je me rappelle qu'en 2001, au parquet général de Matete, un médecin dont j'étais le nom parce que j'étais dans l'affaire avait été interpellé pour une opération qu'il avait faite et pour laquelle justement le malade a commencé à développer une série de pus sur la plaie qui de l'opération qui ne parvenait pas à se cicatriser. Et sur base d'une deuxième opération, il avait été établi qu'il y avait des corps étrangers qui avaient été oubliés dans le corps de la personne. Heureusement que c'était seulement sur la jambe. Et donc, ça n'a pas été aussi grave comme si c'était, par exemple, sur l'abdomen. Et ce médecin avait été condamné à payer des dommages et intérêts à notre client. C'était quelques bons milliers de dollars et qui avait non seulement permis de couvrir tous les soins subséquents à cette erreur, mais aussi à réparer psychologiquement et matériellement tout le reste.
Et si la famille veut se rendre compte, être sûr que la personne, le frère ou la sœur décédée n'est pas morte à suite d'une erreur médicale, est-ce qu'on peut recourir à l'autopsie ?
L'autopsie, malheureusement, dans notre pays, ne peut être ordonnée que par le parquet. Et le parquet peut avoir toute sa lourdeur. Ça, c'est encore une responsabilité qu'il faut imputer à l'État lorsque, du fait de sa lourdeur, de la lourdeur de ses services, la solution n'est pas apportée comme demandé par la famille ou par les patients. Et donc, la question de l'autopsie, elle est assez complexe dans notre pays pour le moment. Et c'est dommage qu'on n'ait pas assez d'expertise, d'ailleurs, sur ces questions-là. Parce que même les formations médicales qui sont capables de faire une autopsie sont à compter au bout de doigts.
Héritier Monsama, depuis Kinshasa, nous dit la vie humaine est sacrée. Alors j'aimerais savoir qui est censé porter plainte en cas d'erreur médicale. Est-ce que c'est le malade lui-même ou toute autre personne qui est au courant de la situation ?
Le principe, il est classique pour avoir droit à porter plainte ou à en tout cas saisir le juge ou une autorité judiciaire. On doit justifier de sa capacité, ça veut dire on doit être un majeur, on doit avoir la personnalité juridique lorsqu'il s'agit d'une personne morale. On doit justifier de l'intérêt à porter plainte. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un proche, un conjoint, ça peut être... ça peut être n'importe qui a effectivement intérêt à porter cette action devant le juge parce qu'il doit justifier devant le juge en quelle qualité et pour quel intérêt il vient le saisir. Et donc, la famille n'ayant pas de personnalité juridique, on parlera pas de la famille comme entité pouvant porter la plainte, mais on peut envisager que des membres des familles nommément cités sur une plainte se pourvoient devant une autorité judiciaire pour demander à ce que ils soient rétablis dans leurs droits, ils soient réparés du fait du préjudice subi à la suite d'un mauvais traitement ou d'un homicide subvenu à la suite d'un acte médical.
Et qui est responsable en cas d'homicide? Il s'agit du médecin lui-même personnellement ou avec toute l'équipe? Peut-être parfois il travaille en équipe, ou c'est le médecin directeur de la formation médicale qui va répondre?
Il faut différencier deux cas. Lorsqu'il s'agit d'une infraction, la Constitution et le Code pénal livre 1 disposent que la responsabilité pénale est individuelle lorsqu'il y a eu homicide. Donc c'est absolument le médecin qui va répondre. Même s'ils sont à 10, ils vont répondre personnellement chacun du fait de sa responsabilité pénale. Mais lorsqu'il s'agit d'une responsabilité civile, on peut, c'est vrai, l'établir dans le chef du médecin directement à partir de la faute qui a été alléguée, mais aussi considérer que la formation médicale qui n'a pas, par exemple, pourvu avec diligence à tous les matériaux dont a besoin le médecin pour tel acte ou tel acte est poursuivable en tant que civilement responsable.
Et si il le médecin s'agir, dit, bon, moi j'avais tout fait, c'est l'infirmier qui devait administrer les soins qui a négligé, et puis...
On dit généralement que le médecin n'a d'obligation que morale, il n'a pas d'obligation de résultat, il doit mettre en œuvre tous les moyens possibles pour arriver au résultat qui est la guérison. Mais il peut être établi entre-temps que le médecin n'a pas agi avec toute la diligence nécessaire que lui enjoint la loi pour arriver à ce résultat. Et donc qu'il a fait telle omission ou qu'il a fait tel excès, telle exagération qui ont produit plutôt des contre-effets et qui ont produit des contre-résultats. En ce moment-là, il emportera sa responsabilité soit sur le plan civil, soit sur le plan pénal, soit à tous les deux plans.
Et la sanction, l'homicide involontaire, quelle est la sanction prévue pour cela?
Tout homicide
volontaire ou involontaire?
Tout homicide en droit congolais est puni de mort.
Puni de mort.
Voilà.
C'est la peine capitale.
Exact.
Bien, Maître Charles Mouchizi, avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Merci et bon début de semaine.
Je vous en prie et bonne journée.